les questions de garde qui sont le premier, oui. La première inquiétude des gens, c'est qui va garder mon enfant quand j'apprends le travail.
Mais laissons le choix aux femmes aussi ou aux parents. Bah oui.
Donnons-leur le choix.
Donnons-leur le choix.
Donnons-leur le choix déjà d'avoir une place en crèche, parce que là, ils n'ont pas le choix, parce qu'il n'y en a pas.
Non, donnons-leur le choix, c'est tout. Et dans le choix, tu as la place en crèche ou tu as t'occupé de ton gamin chez toi. Et c'est un vrai boulot. Et c'est même plusieurs boulots, parce que tu es à la fois femme de ménage, assistante maternelle, chauffeur, cuisinière.
Je ne veux pas signer la femme à ce rôle-là.
Mais et si la femme en a envie?
Si elle en a envie, très bien.
Et bah alors,
c'est pas forcément assigner la femme, c'est reconnaître que c'est un travail. Qu'importe qui le fait, en fait. Ce travail domestique est un travail.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. Pour ne plus rien rater d'RMC,
téléchargez l'appli RMC.
RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Barbara Lefebvre. Je vous attends tout à l'heure pour débattre au 32-16 dans les GG sur RMC.
Barbara, tu seras avec l'éducateur de Saint-Denis, Étienne Liebig, et l'ancien policier du RAID, Bruno Pomard.
RMC, les grandes gueules, tous les jours, 9h midi.
En ce moment, envoyez roux par SMS au 732-16 et si vous êtes sélectionné, gagnez 3000 euros sur RMC.
Et pourquoi envoyer roux et pas argent par exemple?
Parce que si vous êtes joueur, vous pouvez remettre vos gains en jeu, faire tourner la roue RMC et gagner 20 000 euros.
Un gagnant par jour.
Toute cette semaine,
RMC vous rince. Pour jouer, écoutez bien RMC, dès que vous entendez.
Envoyez roux par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Roux au 732-16.
Sur RMC, la roue finit toujours par tourner.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff, Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et Amélie, aujourd'hui, vous nous dévoilez une enquête sur la contamination de l'eau potable dans plusieurs petites communes de France.
Oui, on part à Bonnefonds, c'est en Corrèze, un petit village de 125 habitants. Et c'est l'un d'eux qui nous a écrit parce qu'une partie de sa famille est tombée malade, tout simplement en buvant l'eau du robinet contaminée par la bactérie Escherichia coli, diminuée bactérie E. coli. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive.
Oui, sur place, la question est très sensible.
Absolument, à tel point que notre lanceur d'alerte a finalement refusé de nous parler face caméra. Du coup, Solène Leroux s'est rendue sur place. Et hors micro, des habitants lui ont quand même raconté avoir souffert de violents maux de ventre pendant des jours, des symptômes gastro-intestinaux. Hein. Mmh. Un couple a du coup acheté un système filtrant pour chez lui, individuel. Mmh. Une dame âgée ne boit carrément plus que l'eau en bouteille. Et ils nous ont demandé d'enquêter pour trouver la source de ces contaminations.
Mais alors, il se passe quoi dans ce village?
Alors, la zone est agricole, il y a notamment un élevage porcin. Ah. Et en fait, les contaminations à ce type de bactéries peuvent provenir de cette activité, notamment parce que la bactérie E. coli se trouve dans l'intestin des mammifères et donc aussi des porcs ou des vaches. Mais le maire, en tout cas, a refusé de nous dire si c'était bien ça, la source de la contamination. La préfecture de Corrèze, en revanche, nous confirme que plusieurs villages sont concernés par ces contaminations d'eau potable dans ce département qui est rural et constitué de communes particulièrement isolées. En remontant jusqu'au ministère de la Santé, parce qu'on a enquêté, nous avons découvert que en fait, le phénomène concerne 10% des communes de moins de 500 habitants en France. 10%, oui, parce
c'est
que
énorme.
C'est énorme. Tout simplement parce que leur réseau d'eau est petit, il est souvent géré en direct uniquement par la mairie. Il est vieux, plus de 50 ans parfois, et donc vétuste, et donc vulnérable aux contaminations à la fois bactériologiques et chimiques aussi, et puis aussi pesticides, par exemple.
Il y a un truc que je comprends pas. Normalement, il y a des contrôles, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'avant que les gens soient contaminés, normalement, on aurait dû leur dire que l'eau était pas potable.
Exactement. Il y a absolument des contrôles. Et heureusement, de manière très régulière par les autorités sanitaires. Et c'est d'ailleurs comme ça que, à Bonnefonds, on a découvert le 5 mars dernier que l'eau était contaminée par 32 bactéries différentes. Depuis cet épisode, l'eau a bien été traitée au chlore. À l'heure où l'on se parle, on peut la boire sans souci, a priori. Mais il y a eu une erreur de dosage de chlore, nous a avoué le maire. Trop de produits et une eau qui sent très fort et qui n'inspire pas confiance, c'est ce que nous ont raconté les habitants, et on peut le comprendre. La seule certitude, et ça, c'est pas trop de sa faute, le pauvre, c'est que le maire n'a pas les moyens de moderniser son réseau qui est vétuste. Pour une petite commune de 125 habitants, il faudrait débourser entre 30 et 80 000 euros.
Non, c'est quoi les
C'est énorme. Alors, déjà, première solution, et ça, c'est presque automatique.
Ne plus boire l'eau du robinet.
C'est solution radicale.
Oui.
Ça, c'est possible. Mais en tout cas, ce qui va se passer, ce qu'il va y avoir comme changement, c'est qu'au 1er janvier 2026, et ça, c'est déjà acté, c'est la loi. Tous les petits réseaux d'eau qui sont encore gérés en direct par les mairies, comme à Bonnefonds, ils devront être transférés aux communautés de communes. Et qui dit moyens mis en commun, dit normalement un peu plus de moyens pour procéder aux travaux. Par ailleurs, les communautés de communes, elles peuvent aussi demander de l'argent, des financements auprès de l'agence de l'eau. Quand elles sont plus grosses, évidemment, c'est plus facile d'avoir des financements. Et dans tous les cas, sachez, vous qui nous écoutez, qui nous regardez, que à Bonnefonds, comme partout ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà, quasiment en temps réel, vérifier la qualité de l'eau qui sort de votre robinet.
Ah bon ?
C'est hyper simple. Vous allez sur eaupotabletoutattaché.sante.gouv.fr, on ne peut pas faire plus simple. Et là, vous trouvez tous les résultats des contrôles sanitaires qui sont disponibles, qui sont en open data, comme on dit, donc n'importe qui peut les regarder.
Ah, génial.
Commune par commune. Et même à l'intérieur des communes, vous avez les réseaux avec les hameaux, les villages, les quartiers.
Ah, super.
Donc vous pouvez y aller maintenant, vérifier la qualité de votre eau potable. Alors, quand je dis en temps réel, évidemment, il n'y a pas des analyses tous les jours. Mais en tout cas, ça permet de vérifier de soi-même. Et c'est ce qu'on invite, évidemment, pour l'instant, les habitants de Bonnefonds à faire, en attendant qu'il y ait des travaux, peut-être. On l'espère.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT. RMC partout, RMC tout le temps.
En podcast sur rmc.fr et sur l'appli RMC. RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC ?
J'adore essayer. Toi, il me procure la joie quand je l'écoute, parce que c'est des trucs de fou, les commentaires de sport, quand on est amoureux de sport, c'est un truc de fou.
Jeannot Rességuier et toute la rédaction sport vous font vivre tous les matchs comme si vous y étiez.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
J-11 avant la fête des mères. Et oui, c'est le dimanche 26 mai, une tradition qui date de 1926, mais il va falloir bien en profiter, car la célébration des mamans a du plomb dans l'aile. De plus en plus d'établissements scolaires souhaitent en effet remplacer la fête des mères par la fête des gens qu'on aime. Rassurez-moi Rémi, est-ce que les mamans auront encore des colliers de nouilles ou des porte-savons en pâte à sel? C'est important. Hein.
La majorité d'entre elles, oui, mais il n'en reste pas moins que la fête des mères, c'est vrai, est contestée et que ce n'est pas nouveau. Il y a 10 ans déjà, on l'avait oublié. Moi, j'ai retrouvé un article de presse ce matin, nous étions en 2014.
Et
à cette époque-là, le député Les Républicains Olivier Marleix avait interrogé dans une question à l'Assemblée la ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, sur les nouvelles pratiques de certaines écoles concernant la célébration de la fête des mères remplacée par la fête des gens qu'on aime. C'était il y a 10 ans.
Mm-hmm.
La ministre lui avait alors répondu qu'il n'y avait pas d'instruction ministérielle s'agissant des travaux réalisés par les enfants à l'occasion de la fête des mères et des pères et qu'il relevait de la liberté pédagogique de l'enseignant, ce qui est toujours valable. Aujourd'hui, ce sont les enseignants et les directeurs ou directrices d'établissements scolaires qui décident. Reste que si l'évolution de cette tradition est bien réelle dans les écoles, on le voit chaque année, des écoles qui décident de débaptiser la fête des mères et la fête des pères pour faire une fête des gens qu'on aime, et bien une majorité de Français restent attachés à la tradition. Ça, c'est ce que nous dit un sondage YouGov, qui nous dit donc que seuls 32% des personnes interrogées pensent que la fête des mères et des pères devrait être remplacée à l'école par une unique faites des parents. Ce qui veut dire que une immense majorité, 68% des autres, veulent que ça se maintienne comme ça. Ils sont 68% justement des Français à considérer cette fête comme étant importante.
Alors, faut-il remplacer la fête des mères par la fête des gens qu'on aime ? Thierry Moreau ?
Non. Je pense que la bataille de l'inclusion, que c'est le sous-titre de ce sujet, doit se mener sur des combats plus essentiels et moins symboliques. La tradition de la fête des mères, en fait, elle remonte, faut quand même juste un peu remettre un peu les choses en perspective, depuis l'Antiquité. Alors à chaque fois, on célébrait des choses différentes. Sous l'Antiquité, on célébrait la mère en tant que faisant des enfants. Après, ça a évolué au 19e aux États-Unis, c'était un combat féministe. Il y avait une femme qui voulait promouvoir la journée de la mère au nom de la paix dans le monde. Au début du 20e, on honorait la mère parce qu'elles avaient perdu souvent des enfants au moment du conflit mondial. Donc c'était une autre façon d'honorer la mère. Je pense que c'est une tradition et je vois pas pourquoi on reviendrait sur cette tradition. Alors vous allez me dire, il y a des enfants effectivement dans les classes qui n'ont pas de mère. Mais moi j'ai échangé avec
un... deux mamans ou deux papas, tu vois.
Oui, et ben j'ai échangé avec un instit sur lequel on a discuté, qui m'a expliqué que justement pour lui c'était l'occasion, quand un enfant avait perdu un parent jeune, de justement entamer une discussion avec les autres enfants sur comment c'était, comment ça se vivait, et ça peut se faire même assez tôt, et pour justement parler de ce problème-là et échanger et faire comprendre à ceux qui ont un papa et une maman, ou deux papas ou deux mamans d'ailleurs, ce que c'est que de ne pas en avoir ou d'avoir une vie familiale différente. Et je trouve que là, on est dans la diversité, là, on est dans l'inclusion, et c'est l'occasion de... Mais débaptiser la fête des mères pour en faire la mère de tous ceux qu'on aime, voilà, moi j'aime bien mon boulanger, je vais pas faire une fête du boulanger.
Mais non, mais attends, non, mais là tu schématises.
Mais la fête de ceux qu'on aime, ça veut rien dire, enfin.
Bah si, c'est
super beau comme formule. C'est beau comme formule.
Mais oui, Mathilde Gaillard.
Mais moi j'aime tout le monde, moi.
Non, mais justement.
Je vais faire la fête tous les jours.
Moi j'ai une cousine qui incite et qui à chaque fois me dit qu'elle est mal à l'aise le jour de la fête des mères parce qu'en fait elle a plein d'enfants qui sont pas dans un schéma parental classique, qui ont pas forcément de mère pour plein de raisons différentes. Une mère qui est morte.
Une majorité de ses élèves.
Non, elle a dans sa classe tous les ans des élèves qui sont ces quatre figures.
Une minorité.
Un parent. Oui, mais ça veut pas dire qu'ils existent pas.
Bien sûr.
Et qu'ils ont pas d'émotions et d'affects.
Donc
un parent, une maman qui est décédée, une maman maltraitante et donc ils ont été élevés par un autre parent ou par un autre membre de la famille, deux papas, enfin plein de raisons qui font qu'ils ont pas de mère. Et en fait, ça leur fait sentir qu'ils sont pas normaux, quoi. Qu'ils ont un truc qui manque, quelque chose de différent, que c'est pas normal. Et ça veut pas dire que les gens. Non, mais si pour certains ça a du sens de dire je fête ma mère aujourd'hui, je fête, c'est la fête de ma maman, je lui offre quelque chose, c'est très bien. Mais les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Et si pour des enfants ça a du sens et ils se sentent mieux qu'on leur dise c'est la fête des gens de la personne que tu aimes et qui est importante pour toi, ben en fait, ça fait du bien à tout le monde et aux enfants en premier lieu. Ils se sentent plus anormaux et bizarres et décalés. Moi, je pense que c'est quelque chose de.
Alors, c'est-à-dire
important.
Qu'il faut faire peut-être deux fêtes des gens qu'on aime.
Non, ça peut être, c'est la même date.
C'est-à-dire que tu fabriques deux cadeaux.
On garde Noël et puis c'est tout.
Pourquoi ?
Mais
si on n'a pas
de mère. Tu fais la fête des gens qu'on aime. La maîtresse, déjà, bon, elle va passer quatre jours à aller faire un collier en pâte à sel. Bon, très bien. Mais quelque part, si tu offres un cadeau, un seul cadeau à la fête des gens qu'on aime à ta mère et t'offres rien à ton père, ça va pas le faire. Ou si tu offres juste à ton père et pas à ta mère, donc il faut quand même avoir deux cadeaux pour ceux qui ont deux parents.
Mais si t'as un grand cœur, ça va faire beaucoup, beaucoup de cadeaux.
Ça veut rien dire, c'est des gens qu'on aime.
Mais t'imagines,
ça veut dire la personne qui t'éduque, c'est la fête
des gens qu'on aime. Attends, moi je suis maman, t'as la fête des gens qu'on aime, et si mes enfants, ils offrent juste un cadeau à leur père, je peux te dire que ça va quand même m'agacer.
Mais sinon, on garde deux dates, on garde la fête des mères, la fête des pères, et c'est juste que on le labellise plus tout à fait comme ça, on dit la fête des mères ou des gens qu'on aime, et comme ça, c'est adapté, adaptable pour chacun.
Mais alors si l'enfant a deux papas, s'il y a la fête des pères et des gens qu'on aime,
ils auront deux cadeaux, voilà, deux jours dans l'année. Mais franchement, mais pourquoi ? Mais
c'est trop compliqué. Une usine à gaz, son truc.
Ouais, mais pour faire la fête des gens qu'on aime.
Et je suis désolé. Les gens qui ont des situations de famille un peu différentes, ben justement, comme je te le disais, ça peut être l'occasion de parler de ça à ce moment-là.
Mais c'est une bonne occasion. Mais c'est pas vrai. Ils vont se sentir exclus.
Si je l'ai vécu.
Alors attends, juste Fred, là au bureau, on a un garçon qui nous raconte dans la classe de son fils qui a 7 ans. Il y a un petit garçon qui a perdu son papa il y a quelques mois et justement la maîtresse, sous un prétexte fallacieux, a envoyé le petit ailleurs voir le proviseur ou je ne sais quoi et a dit aux autres élèves de la classe cette année on va pas faire la fête des papas, on va faire la fête des parents parce que c'est compliqué pour le petit garçon. Et je suis désolée, il y a des enfants pour qui c'est très compliqué de parler. Si t'as perdu ton père il y a un mois, Bah, c'est compliqué. Je suis désolée d'avoir la fête des pères dans ta classe. Mais non, mais si. Mais il faut prendre ça en compte aussi.
Pas la majorité.
Non, mais bien. D'accord. Mais alors, est-ce qu'on non, alors, ça, on enlève les minorités
un cas hyper spécifique de quelqu'un qui a perdu un parent il y a un mois. Évidemment qu'il faut prendre des précautions.
Non, mais un petit garçon ou une petite fille qui a perdu son papa en école primaire ou sa maman. C'est compliqué. Enfin, je suis désolée de faire la fête des mères et de dire tiens, et toi, Sarah, t'as fait quoi aujourd'hui? Bah, moi, j'ai rien fait, j'ai plus de maman. Bah, c'est voilà, on peut aussi l'entendre sans s'énerver. Fred Hermel.
Là, il va s'énerver.
Non. Moi, j'ai vécu ça, j'ai perdu mon père.
Je sais, Fred.
Un mois, c'était au collège, un mois après, il y a eu un texte, on était en littérature, enfin en classe de français, il y a eu un texte là-dessus et la prof m'a demandé de parler de ça, c'était un mois après. Ben, j'ai fait avec. Et ma petite sœur, elle était à l'école primaire. On fait avec. Parce que après toute votre vie, vous rappelle. Puis ma sœur, quand elle s'est mariée, il n'y avait pas son père. Et voilà. Et on fait avec. C'est tout. Il ne faut pas surprotéger les enfants. On doit vivre avec ça. C'est tout. Et moi, s'il est mort il y a 41 ans, cette semaine, je ne m'en mettrai jamais, je le sais. J'ai écrit des livres pour essayer de m'en sortir de ça. Mais on vit avec, c'est tout. Voilà, et il faut pas. Ce qui est énervant dans ces cas-là, ce sont les gens qui pensent mieux savoir que ce que vous ressentez. Et ça, c'est insupportable. Les enfants sont beaucoup plus forts qu'ils ne le croient, que les gens ne croient. Beaucoup plus forts. Et l'exemple des deux papas et de maman. J'ai été témoin au mariage gay en Angleterre de mon grand ami Jean-Noël avec son mari Yura. Ils ont adopté un petit garçon. Donc, c'est simple. À la fête des mères, il n'y a pas de cadeau. Mais à la fête des pères, il y a le cadeau pour papa, Jean-Noël, et pour daddy, Yura, qui est anglais. Et voilà, et ça se passe très bien, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est tout. Il y a deux cadeaux quand c'est les deux papas.
Oui, mais t'as des cas où ça se passe très bien. Et t'as des cas où ça se passe moins bien.
Ça se passe très bien. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ont dans leur tête des idées d'inclusion, etc. Nanana. Mais quand tu n'as plus ton papa, quand tu n'as plus ta maman, t'es le premier à le savoir et adapter ta vie à ça. Voilà. Voilà, c'est tout. Et puis quand tu remplis tes fiches, c'est jamais facile au début de la confession des parents. Tu marques des CD. Voilà. Tu serres les dents, t'as les larmes, et puis après, tu continues à vivre. Puis un jour, tu deviens un homme. Puis tu fais de la radio, puis t'es heureux.
Je suis très touchée par ton émotion. Parce que
c'est comme ça. Mais arrêtez, mais les enfants. Alors je comprends un gamin maternel, etc.
Oui, voilà.
Un mois. Et puis t'as la figure du parrain, de la marraine, des grands. T'as plus ta maman, tu fais un cadeau à la grand-mère. Il y a des manières en fait de. Bien sûr qu'il faut de la pédagogie, de la sensibilité, de l'enseignant à ce moment-là. Et l'immense majorité des enseignants longs, et Thierry a dit un truc très intéressant, c'est l'occasion d'en parler aussi. Moi, je me souviens, j'avais oublié, et c'est quand tu m'en as parlé comme ça, c'était un mois, c'était en cours, on s'est retourné, la prof a dit, Frédéric, je sais plus quel texte c'était, où on parlait de la mort d'un proche, etc. Mmh. Frédéric, tu viens vivre ça, ce que tu as ressenti, ça a été dur, et j'ai dû parler en classe de français, j'étais en quatrième, ce dont j'avais vécu, ce que j'ai de vivre, mais c'est quelque chose qui. Voilà, ça te fait grandir, parce qu'après, toute ta vie, tu vas être
confronté
au fait que tu as perdu tel parent ou tel proche à un moment de ta vie. Ce n'est pas normal de perdre son père à 13 ans, dans mon cas, et 10 ans, ma sœur. Mais voilà, donc on n'est pas normaux dans le truc. Voilà, et après, tu te construis aussi par rapport à cela.
Et il faut affronter la réalité. Moi, je me permets d'intervenir, parce que mon père aussi est orphelin de mère à tout. Il a perdu sa maman à 9 ans. Il m'en a parlé, moi, quand j'étais gamin, il me dit, à la fête des mères, il me disait, tu vois, moi, quand il y avait la fête des mères à l'école, on est notre époque, on est dans les années 40, mon père aussi, il y avait la fête des mères, on faisait déjà un cadeau pour les mamans, et l'institut lui avait dit, écoute, tu fais un deuxième cadeau pour ton papa. Et il faisait un deuxième cadeau pour son père, le jour de la fête des mères et le jour de la fête des pères. Et voilà.
Quand tu mets le cœur, l'intelligence et pas l'idéologie, ça va, ça
faut faire confiance aux enseignants.
Alors, on est avec Alison, qui nous appelle de Saint-Pierre-du-Perret dans l'Essonne et qui est gendarme. Bonjour Alison.
Bonjour Estelle, bonjour tout le monde.
Bonjour. Alison, vous avez des enfants ?
Oui, moi j'ai deux enfants. J'ai un petit garçon qui a 6 ans et un autre qui a 2 ans. Et en fait, j'appelle parce que moi, je les ai faits en PMA en Belgique, tous les
d'accord.
deux.
D'accord, ok.
Donc, toute seule. Et pour le coup, le grand qui est à l'école, là, il est rentré en CP. Et donc, ça fait 3 ans que pour la fête des mères, j'ai mon petit cadeau de fête des mères. Et j'avais un peu la peur pour la fête des pères, justement. Pas que, en fait, justement, il soit exclu, mais au contraire, que la maîtresse supprime pour toute la classe la fête des pères parce parce qu'un enfant n'avait pas de papa. Donc je lui en ai absolument pas parlé pour pas l'influencer sur quoi que ce soit. Et j'étais mais ravie les 3 années, 3 maîtresses différentes qui à chaque fois en fait ont fait un cadeau pour son papy. Voilà. Au lieu de marquer la première année, ça devait être un poème. Ils ont marqué bonne fête papy. Soit dit en passant, il n'y a pas de fête des grands-pères, donc il était ravi.
C'est vrai, mais vous avez raison, le ciné. Il y a fête des grands-mères et pas des grands-pères, mais oui.
Voilà.
En même temps, les hommes meurent plus tôt, alors peut-être que.
Non, mais c'est vrai que du coup, j'avais vraiment peur qu'elle supprime pour tout le monde parce qu'il y avait mon fils qui n'avait pas de papa et finalement, elle s'est adaptée. Et encore une fois, je suis tellement d'accord avec Fred Hermel sur c'est les adultes qui doivent être intelligents et faire passer. Pour chaque enfant, chaque situation est différente, mais en tout cas, je vois par rapport à la mienne et je suis ravie que mon père ait eu un cadeau pour les 3 fêtes des pères et c'est lui qui choisissait, donc c'était son papy, son parrain, enfin peu importe, mais au moins c'était maintenu et je trouvais ça génial parce que c'est vrai que ça aurait été dommage de le supprimer parce qu'il y en a un et il y a d'ailleurs une de ses camarades aussi qui n'a pas de maman et là c'était un cadeau pour sa grand-mère quand il y avait la fête des mères et je trouve ça génial, donc je trouverais ça vraiment dommage d'appeler ça autrement alors que finalement, il faut s'adapter à chaque situation sans pour autant perdre ce qu'on a déjà, en fait, de pouvoir faire un cadeau à sa maman ou à son papa, quoi.
Et puis ça peut culpabiliser en plus les enfants en disant on n'a pas la fête des mères à cause de toi. Mais bien, oui, parce que ça se sait finalement.
Mais non, mais
oui, parce que dans d'autres classes font le truc, pourquoi cette classe, le CM1, B, ne fait pas. Voilà,
oui. Après, là, c'était pas supprimer la fête des mères. C'était la question. Non, c'est plutôt la question de comment on l'appelle, plus que de la supprimer. Je pense que personne ne veut la supprimer.
C'est ça, personne ne veut supprimer la fête des mères. L'idée, c'est simplement.
Si tu changes le nom, tu supprimes.
Tu l'appelles un peu différemment.
Ou on pourrait dire fête des mères ou des gens qu'on aime.
Exactement. En vrai.
Quoi. C'est le fond, comme l'a expliqué Fred avec beaucoup d'émotion.
On a tous été touchés ici, je pense. C'est pas le sujet.
Justement, c'est vraiment se cacher derrière des mots. La fête des mères, c'est la fête des mères. Et quand c'est pas possible pour certains, on en parle, on s'adapte et on vit et on fait avec.
Et ça fait partie de l'apprentissage de l'absence.
Alors merci en tout cas, Alison, pour ce témoignage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et alors, c'est un sujet qui fait beaucoup réagir, Rémi.
Oui, j'ai ce message qui me fait sourire de Didier qui nous dit « La fête des mères, ben oui, c'est important, mon épouse est capable de vous sortir tous les cadeaux de la fête des mères de notre fille. » Et elles ont aujourd'hui respectivement 34, 32 et 27 ans. Ouais,
mais
oui.
Non.
Si, elle a tout gardé.
Gardé, moi.
Et pour mon épouse, c'est toujours un plaisir de ressortir cette boîte de temps en temps. Et pour nos filles aussi.
J'avais offert un pot à crayon en pince à linge à ma mère. Elle l'a gardé assez longtemps.
Mais moi, j'ai l'empreinte de mes enfants dans là. Et j'ai 2 statues. Faites par mes enfants.
Carrément.
Alors, c'est pas très ressemblant, mais c'est très rigolo.
Et les boîtes à bijoux en boîte d'allumettes.
Oui, magnifique.
Ah, moi, j'ai gardé. Non, mais les boîtes à bijoux, j'ai pas. Non, la boîte en cœur en papier mâché, j'ai gardé. Ouais. Je mets rien dedans, mais j'ai gardé son bureau. Mais
bah, vous voyez, vous êtes sentimental.
Ouais,
aussi.
J'avoue, il y en a quand même pas mal que j'ai perdu
dans le déménagement. Il y a plus beaucoup de colliers de nouilles. Maintenant,
les colliers de nouilles,
j'ai quand même beaucoup de travail.
Si,
c'était très bien. Moi, je me souviens pendant des années le vide-poche en terre cuite.
Oui,
qui était
vraiment fine. C'est presque la Rolls-Royce du cadeau, quoi. Du cadeau de tes mères.
Comme quoi ça sert.
Mais bien sûr.
Mais oui, il n'y a pas de petits cadeaux, voyez-vous. Notre invité sur ce débat, c'est le docteur Gilles-Marie Vallet. Il est pédopsychiatre et auteur de « Dites pas ci, dites pas ça » aux éditions Hugo. Bonjour, docteur.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Merci beaucoup d'être avec nous sur ce sujet qui déchaîne les passions sur le plateau. On garde la fête des mères ou alors la société a évolué et on va aller plus sur la fête des gens qu'on aime?
Alors justement, j'entendais effectivement beaucoup de passion, beaucoup d'émotions, et à juste titre, parce que ce dont il s'agit, c'est évidemment pas que de mots. Tout à l'heure, j'entendais, finalement, c'est pas bien important, on change un mot pour un autre. Mais les mots, non seulement ils ont du sens, ils sont symboliquement chargés, ils sont émotionnellement chargés, et ils ont des fonctions. Et j'aurais envie de dire, ou de rappeler ce proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire que ça part peut-être d'une bonne intention, mais sur le plan symbolique, émotionnel, fonctionnel, c'est pas du tout pertinent. Je m'explique. Déjà sur le plan du symbole, remplacer effectivement la notion de mère ou de père, puisqu'on ferait une fête globale par les gens qu'on aime, ça laisserait entendre que finalement, les parents ne se résument qu'à ça. Ce sont les gens qu'on aime. Et déjà, on peut dire que c'est plus complexe que ça. Il y a des parents qu'on a aimés, qu'on a moins aimés, qu'on a détestés, qu'on a réaimés. Donc, le lien aux parents n'est pas qu'un lien d'amour. C'est un lien d'amour, mais pas que. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas être remplacé par juste la notion de ce qu'on aime. Parce qu'en revanche, il y a plein de gens qu'on aime et qu'on fête tous les jours. Sa chérie, son meilleur copain, cet ami de... Comment je ne sais pas si c'est ce que vous avez dit. Donc ça, c'est la dimension symbolique. Parce qu'après, il y a la dimension fonctionnelle. C'est-à-dire que le parent, ce n'est pas forcément le parent biologique, justement. C'est effectivement aussi celui qui nous élève, celui qu'on considère comme son père ou comme sa mère. Et c'est en cela que, finalement, l'évolution de la société, elle doit évidemment prendre en compte l'évolution des modèles familiaux. Mais prendre en compte l'évolution des modèles familiaux, c'est justement ne pas abraser ces différences. Parce que le risque, c'est de dire finalement, comme il y a des familles qui sont comme ci, comme il y a des familles qui sont comme ça, bah, du coup, on abrase tout.
Mais c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Excusez-moi.
Exactement. Hein. C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce qu'on retrouve.
Mais pas que là-dessus. Hein, quand vous rajoutez une case X, par exemple, sur un passeport, il y a Monsieur, Madame et X. Parce que la société, elle a changé. Il y a ça aussi, quoi.
Oui, mais justement, prendre en compte le changement de la société, ce n'est pas abraser, c'est ajouter. C'est-à-dire qu'effectivement, qu'on fasse une fête des gens qu'on aime, très bien, mais ça ne veut pas dire faire disparaître ou englober dans un magma.
C'est ça, on rajoute en fait.
Voilà. D'accord. Ajouter, effectivement, une fête de ceux qu'on aime. Mais de toute façon, citons des exemples concrets. Une famille dans laquelle il y a deux papas, et ben pourquoi on enlèverait la fête des pères alors qu'on peut fêter deux fois la fête des pères?
Oui, bien sûr, je comprends.
Dans une famille où il y a deux mamans, une famille où l'enfant est orphelin. Bien sûr qu'il a eu des parents. J'entendais ce témoignage, effectivement, de cet enfant qui a perdu, effectivement, un de ses parents alors qu'il était adolescent. Il l'a perdu, c'est-à-dire qu'il est décédé. Mais ça ne l'empêche pas de le fêter. Et la fête des mères, on peut la fêter, effectivement, en pensant à celle qui a disparu, même éventuellement en lui faisant un cadeau, parce qu'elle est quand même dans notre cœur, elle est dans nos souvenirs, elle est représentée par plein d'autres choses. Je crois que l'idée de vouloir... Et c'est pour ça qu'il faut quand même se méfier des comment dire, de ces idées...
Des fausses bonnes idées, quoi.
Des fausses bonnes idées. D'accord. Il y a dans ce désir d'abrasement, quand même, l'a priori, et c'est celui-là sur lequel je pense qu'il faut vraiment être vigilant, l'a priori que la différence, forcément on en souffre, alors que c'est pas forcément vrai. Ce principe qui serait de tout englober, c'est quand même l'idée que forcément, c'est parce que les autres enfants qui sont pas comme la majorité, j'entendais le terme de normal, mais
ils en souffrent.
Le normal c'est juste la norme. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, c'est moins bien, c'est comme
bien
ça.
Bien sûr.
C'est parti du principe qu'ils en souffrent, mais ce n'est pas forcément le cas. Et si c'est le cas, eh ben, aidons-les à ne pas en souffrir. Non pas en disant, oh mais non, vous êtes comme les autres finalement, parce qu'on va... Non, en disant, effectivement, vous avez des différences, mais voilà, on les accompagne, on les comprend, on les soutient.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, docteur Gilles-Marie Vallet, c'était extrêmement intéressant, extrêmement complet. Je voudrais qu'on termine avec Valérie, parce que Valérie, elle nous appelle de Maubuisson, en Gironde, Maubuisson, et elle est enseignante en maternelle. Bonjour Valérie.
Bonjour, alors je ne suis pas du tout à Maubuisson, mais c'est pas grave.
Bon bah c'est pas grave, alors c'est Maubuisson, non mais je vois très mal en fait.
directrice en maternelle, effectivement.
Valérie, c'est un casse-tête ou pas la fête des mères?
Alors c'est un casse-tête à titre personnel et professionnel. À titre personnel, je me demande pourquoi on a besoin de fêter les parents et les grands-parents, parce que ça veut dire quoi sur notre société et les autres personnes dans la vie réelle? Que des parents et des grands-parents. Moi, j'ai fêté ça à titre personnel dans ma famille de manière traditionnelle, mais j'ai pas souhaité reproduire ce modèle-là avec mes enfants.
C'est-à-dire
que je ne souhaite pas qu'ils me fêtent. On ne fête pas la fête des mères et la fête des pères dans ma famille.
Mais dans votre classe, les enfants, ils font rien pour la fête des mères et la fête des pères.
Alors, dans ma famille.
Dans la classe, Valérie.
On a un compromis d'équipe qui est effectivement la fête des gens qu'on aime. Mais c'est régulièrement discuté parce que les schémas sociaux sont plus du tout les mêmes qu'avant. On a des enfants effectivement qui sont issus de familles qui sont divorcées, monoparentales, choisies ou non d'ailleurs, avec de la PMA. On a des enfants qui sont orphelins. On a aussi des enfants maltraités. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on leur demande de remercier leurs parents par ce cadeau, par cette fête? Et puis aussi, il y a une question qui me semble importante, c'est qu'est-ce que ça a à voir vraiment avec l'école?
Oui, mais ça, après, c'est une tradition depuis 1926. Voilà. On a tous fait des trucs pour nos parents, bon voilà.
Mais on continue de fonctionner sur des traditions.
Oui.
Qui n'ont plus lieu d'être.
Mais peut-être. Non, mais après, peut-être qu'il faut la supprimer, la fête des pères. Peut-être qu'il faut supprimer la fête des pères. Mais enfin, toujours est-il qu'en tout cas, il y a encore beaucoup de parents qui y sont attachés et beaucoup d'enfants.
Parce qu'on continue de leur proposer.
Oui. Bah, c'est sûr, si on leur proposait pas, et ils le feraient pas de même. Ça, c'est, non, mais ça, j'entends. Mais après, c'est tout l'enjeu de cette question. Est-ce qu'il faut la remplacer, cette fête des mères, par la fête des gens qu'on aime? Est-ce qu'il faut la supprimer? Bah, en tout cas, merci beaucoup, Valérie, d'avoir été avec nous. Puis on va voir le résultat de notre sondage, Rémi.
Oui, est-ce que la fête des gens qu'on aime, il faut remplacer la fête des mères par la fête des gens qu'on aime? C'est non. Frédéric, pour 93% de ceux qui sont présents sur nos réseaux sociaux.
Ah oui, on a eu quand même là des sujets qui ont marqué. Oui, oui, effectivement, il n'y a pas une marge d'erreur, quoi, finalement, aujourd'hui.
RMC, midi 15h, Estelle Midi.
RMC, 4h30. Bon réveil à tous, vous êtes bien sur RMC et nous sommes en direct comme chaque matin, 4h30, c'est le rendez-vous pour un premier journal en direct sur RMC avec à la une ce matin le gouvernement qui décrète l'état d'urgence et déploie l'armée pour tenter de retrouver un semblant de calme en Nouvelle-Calédonie. Les violentes émeutes ont fait 4 morts dont un gendarme de 22 ans. À la une également, un témoignage RMC, celui du père d'un des deux surveillants tués lors de l'attaque du convoi pénitentiaire de Mohamed Amra. Et puis en foot, l'OM perd à Reims et ses ambitions européennes s'éloigner. Au programme aujourd'hui, la liste de Didier Deschamps pour l'Euro. En Nouvelle-Calédonie, la nuit dernière a été un peu plus calme que les précédentes. 70 nouvelles interpellations ont eu lieu lors des dernières 24 heures, a indiqué le Haut Commissariat de la République. Les violents affrontements qui ont débuté il y a 3 jours ont fait 4 morts, dont un gendarme de 22 ans. Le gouvernement déploie d'importants moyens sur place pour tenter de retrouver le calme, avec notamment l'instauration de l'état d'urgence, Romain Poiseau.
L'état d'urgence durera 12 jours. Il peut être prolongé par un vote du Parlement. Ce régime juridique donne une palette d'outils au préfet pour rétablir l'ordre. Assignation à résidence, c'était le cas dès hier avec plusieurs indépendantistes. Remise d'armes détenues légalement, à savoir qu'un Calédonien sur 4 est armé. Couvre-feu, fermeture de bars, interdiction de manifestation, perquisition administrative. C'est la 8e fois en 70 ans que l'état d'urgence est décrété, la 2e fois en Nouvelle-Calédonie. En plus de ce dispositif, le Premier ministre a annoncé hier l'interdiction du réseau social TikTok et le déploiement de l'armée pour sécuriser les ports et l'aéroport. Des renforts devraient arriver sur place la nuit prochaine. 5 escadrons de gendarmerie, 2 sections de CRS-8, des forces du GIGN et du RAID. Au total, 500 gendarmes et policiers sont partis dès hier soir.
Les précisions de Romain Poiseau. Et ce matin, évidemment, vous avez la priorité sur RMC au 32-16. Si vous vivez en Nouvelle-Calédonie, si vous avez des proches qui y vivent, n'hésitez pas, hein, je parle du 32-16, mais il y a aussi Direct Studio. Si vous avez l'appli RMC, évidemment, vous nous envoyez un petit message, on vous lit, on vous rappelle en direct. Évidemment, vous savez que vous avez la priorité pour témoigner. Vous suivez peut-être la situation depuis la métropole, hein, vous suivez la situation avec vos proches qui vivent sur place. Vous avez peut-être vécu par le passé en Nouvelle-Calédonie. Vous connaissez cet archipel, n'hésitez pas. Le 32-16 est ouvert. C'est précieux d'avoir vos témoignages ce matin en direct sur RMC. Quentin vient de s'installer au standard et on vous attend. À la une également ce matin, la traque de Mohamed Amra et de ses complices qui se poursuit. Mardi, je vous rappelle que 2 agents de l'administration pénitentiaire ont été tués. 3 autres grièvement blessés au péage d'Incarville dans l'Eure lors de l'attaque de leur fourgon qui transportait le détenu. Et parmi les victimes, Arnaud Garcia, surveillant pénitentiaire âgé de 34 ans. Le témoignage ce matin sur RMC de son père, Dominique. Clément Brossard l'a rencontré hier après-midi pour RMC.
Mardi, Dominique, 65 ans, est dans le nord de la France, à Lens, sa ville natale, quand il reçoit un appel.
J'entends une voix que je reconnais comme étant M. Dupont-Moretti. Je me suis dit, là, ça y est, le fils unique qui tombe, tout s'écroule.
Dominique Garcia habitait à quelques mètres de son fils, avec qui il entretenait une relation fusionnelle.
J'ai tout partagé avec lui. La passion de moto, le foot, les bons barbecues. Bon. J'aurais voulu que mon fils soit mon meilleur ami.
Il se sent désormais
seul, abandonné. Et maintenant, je pense à ma belle-fille.
Car Marie, l'épouse d'Arnaud Garcia, aide-soignante, est enceinte de 5 mois.
Elle est toujours traumatisée, elle n'a plus d'amour. Maintenant, il faut qu'elle vive avec cette perte. Elle m'a dit, on va vivre pour le petit bébé qui va arriver.
Gendarme à la retraite, Dominique ne ressent pas de haine.
Un peu de colère contre les personnes qui ont exécuté ça, d'assassiner mon fils. Maintenant, est-ce que c'est à moi d'expliquer comment on n'a pas pu empêcher cet assassinat ou ce traquenard? Je ne suis pas dans l'enquête. Je laisse soin au personnel de la police, gendarmerie et justice d'interpeller les auteurs et après la justice de faire le travail.
Un hommage devrait être rendu à son fils la semaine prochaine à l'église de Blangy-le-Château.
Le témoignage de Dominique Garcia recueilli par Clément Brossard pour RMC. Un mouvement historique aujourd'hui. Voilà comment les syndicats de pompiers qualifient leur appel à la grève et à la manifestation. Pour la première fois, toutes les organisations syndicales de pompiers appellent au rassemblement à partir de 14h à Paris des sapeurs-pompiers dans la rue pour demander de meilleures conditions de travail et de rémunération. En sport, le foot, l'OM battu à Reims hier soir 1-0 en match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Marseille qui voit ses ambitions européennes s'envoler peu à peu. Les Marseillais n'ont plus leur destin entre leurs pieds avant la dernière journée dimanche prochain. De son côté, le PSG s'est imposé 2-1 à Nice hier soir. Et puis l'Euro de foot approche, c'est dans un mois et première étape aujourd'hui pour les Bleus avec le sélectionneur Didier Deschamps qui va dévoiler sa liste de 26 joueurs convoqués pour se rendre en Allemagne. Et Jean Essayguier, Didier Deschamps est en train de préparer une liste d'adaptation.
Parce qu'il y a trop d'incertitudes pour certains cadres comme Aurélien Tchouaméni, le milieu du Real victime d'une fracture de fatigue au pied gauche la semaine dernière. Kingsley Coman, l'ailier du Bayern, a repris la course avec son club mais n'a pas rejoué depuis mi-avril. Didier Deschamps doit aussi trouver un latéral gauche pour pallier le forfait du Parisien Lucas Hernandez. Deux noms reviennent avec insistance. Ferland Mendy du Real Madrid et Lucas Digne d'Aston Villa. Pour le reste, pas de surprise à part peut-être l'intégration de l'espoir parisien Bradley Barcola qui serait en concurrence avec Moussa Diaby qui avait eu la préférence du staff des Bleus en mars dernier. Une liste élargie donc pour permettre au sélectionneur de prendre son temps avant d'officialiser la définitive le 7 juin prochain.
La liste donc ce soir révélée par Didier Deschamps. Et puis un mot de la météo pour vous dire que ce matin il va pleuvoir surtout au nord de la Seine, mais cet après-midi on retrouvera des averses orageuses malheureusement sur la plupart des régions. Côté température, ce sont à peu près les mêmes qu'hier. Elle reste un peu juste pour la saison. On sera souvent entre 17 et 21 degrés. On monte jusqu'à 23 du côté de la Corse.
La météo sur RMC avec BNP Paribas. Avec Tap to Pay sur iPhone et Accepta BNP Paribas, acceptez les paiements sans contact. Il suffit d'un iPhone.
4h36 sur RMC. On va se retrouver dans moins de 20 minutes maintenant avec toute l'équipe de Charles Matin en direct. Là, tout le monde est dans les starting blocks. Tout le monde s'affaire. Quentin et Nicolas viennent de s'installer au standard. Yann est déjà prêt en régie pour réaliser l'émission avec Arthur en coulisses. Et puis Géraldine est sur le point de s'installer, évidemment, avec toute l'équipe qu'on va retrouver à partir de 5h. Vous le savez, Manu Le Chypre pour la conso. On parlera sport aussi avec Alex Biggerstaff. On va retrouver Marilyn Ottmann pour RMC S'engage. Bref, toute la team. Et là, mais surtout avec vous, on est tous ensemble, vous le savez, le matin pour démarrer la journée sur RMC. Et ça se passe avec vous au 32-16, notamment évidemment, si vous vivez en Nouvelle-Calédonie, si vous avez des proches sur place, vous avez connu la Nouvelle-Calédonie, vous y avez peut-être vécu il y a quelques années, venez nous raconter ce qui se passe dans cet archipel. Vous suivez la situation évidemment d'heure en heure, vous aurez les toutes dernières infos, les tout derniers témoignages à partir de 5h en direct sur RMC. Soyez bien là au rendez-vous dans Charles Matin. Il y a le 32-16 évidemment. Vous pouvez aussi nous envoyer toutes vos réactions, tous vos messages sur l'appli RMC avec Direct Studio. Envoie les messages qui s'affichent en direct. On les lit à l'antenne évidemment à tout moment. On se retrouve dans un quart d'heure et d'ici là, je vous laisse avec Estelle.
Merci Charles et on vous retrouve juste avant 5h. Ce sera après les meilleurs moments d'Estelle Midi sur RMC.
Estelle Midi. RMC Conso.
Et aujourd'hui, on va parler d'une véritable passion française, Charlotte. Cette passion, c'est le beurre. On en mange 8 kilos par an et par personne. Dans les rayons, on en trouve désormais de toutes sortes, du doux, du salé avec des cristaux de sel, du moulé, du beurre de baratte. Bref, sans compter les alternatives, beurre allégé ou margarine. Et c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué de choisir.
Oui, alors je vous ai ramené des petits toasts. À vous de me dire si vous savez détecter lequel est à la margarine et lequel est au beurre salé. Oui. Alors c'est vrai que même visuellement...
C'est ça, le moche, c'est la margarine et le bien, c'est le beurre salé.
C'est ça, même visuellement, ça se voit un petit peu. Mais j'ai hâte d'avoir vos retours pour savoir si vous savez lequel... Et le beurre et lequel est la margarine.
C'est facile à reconnaître.
C'est facile à reconnaître, ça n'a pas vraiment le même goût. Effectivement. En fait, le beurre et la margarine, c'est complètement différent. Le beurre, c'est de la crème qu'on a agitée pour séparer matière grasse et petit lait. On garde la matière grasse, on malaxe, ça fait du beurre. Alors que la margarine, c'est un conglomérat d'huile végétale mélangé à de l'eau et solidifié grâce à un processus industriel.
Alors, le truc, c'est que la margarine a quand même une petite étiquette santé. Quoi. On a l'impression que c'est très bien pour notre organisme. En fait, pas du tout aussi.
Oui, alors en fait, cette image-là, elle est largement surcotée. Selon les nutritionnistes, la margarine, elle peut avoir un intérêt pour faire baisser le mauvais cholestérol parce qu'elle contient moins d'acides gras saturés. Cela dit, elle est tout aussi riche en matière grasse que le beurre, tout aussi calorique. Ah bon ? Et le problème, c'est que c'est un aliment qui est quand même très, très transformé. Donc aujourd'hui, elle n'a plus vraiment bonne réputation, surtout qu'il y a certaines gammes qui contiennent des acides gras trans. qui ont été reconnus et accusés d'être responsables de maladies cardiovasculaires. Donc c'est complètement contre-productif. Alors aujourd'hui, la margarine, ça s'appelle même plus margarine, c'est complètement ringard, ça s'appelle alternative végétale à tartiner, des choses comme ça, parce que ça cible surtout les végétaliens. C'est ça la nouvelle cible des industriels pour la margarine. Et c'est souvent aussi moins cher que le beurre. Bon, ça c'est un argument...
Enfin, on a compris pourquoi.
Mais on a compris pourquoi, oui.
Oui, évidemment. Y a aussi du beurre allégé. Alors, excusez-moi, mais je n'arrive pas à comprendre le concept du beurre allégé.
Oui, alors tout simplement allégé en matière grasse. Comment ils font? Bah, c'est tout bête, ils rajoutent de l'eau. En fait, le beurre allégé, c'est quoi? C'est essentiellement de l'eau. C'est de beaucoup l'eau trop cher pour ce que c'est. Ça reste dans les mêmes prix à peu près que le beurre, alors qu'en fait, le premier ingrédient de ces produits-là, c'est de l'eau, et le deuxième, bah, un peu de beurre, c'est un mélange entre de l'eau et du beurre. Et d'ailleurs, en dessous de 40% de matière grasse, ça ne s'appelle même plus du beurre, ça s'appelle préparation laitière.
Mais quelle horreur. Mais nous, on veut du vrai beurre, évidemment. Charlotte, c'est quoi la différence finalement entre les différentes mentions qu'on voit en rayon? Vous savez, il y a du beurre moulé, beurre de baratte, beurre extra fin. C'est quoi la différence?
Alors, la première chose, c'est que beurre moulé, oubliez cette appellation parce que ça ne veut rien dire de plus qu'un élément de présentation. C'est fait dans un.
C'est la machine.
C'est ça. Qui moulé, il est en rectangle, c'est ça?
Oui, oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est,
avec
c'est
des, moulé, des bords un petit peu.
Exactement, voilà, c'est fait, ça. Oui. En revanche, le beurre de baratte, ça, c'est un signe de qualité puisque c'est fait selon un procédé traditionnel, donc une machine qui s'appelle une baratte. On ajoute des ferments lactiques à la crème, ça mature et puis ensuite on a un temps de malaxage qui est beaucoup plus long que du beurre classique. 24 heures pour faire un kilo de beurre baratte contre une heure pour un beurre classique, un kilo. Oui, un kilo dans chaque catégorie. Donc le résultat, évidemment, c'est que c'est plus cher. Hein, le temps, c'est de l'argent. 15 euros à peu près le kilo pour le beurre baratte. Ça a les mêmes qualités nutritionnelles, mais il a la réputation d'être meilleur au goût.
Évidemment. C'est même meilleur que l'extra fin, non?
Alors finalement, ce sont deux choses différentes et deux signes de qualité différents. L'extra fin, c'est lié en fait au fait que la crème qui a servi à faire ce beurre est issue d'un lait de vache qui a moins de 72 heures. Il doit être fait dans les 72 heures qui suit la traite. Donc c'est un signe de qualité, il ne peut pas être congelé. Parfois le beurre, il sert, on prend du lait qui a été congelé, de la crème qui a été congelée, on fait du beurre.
Oui. Alors moi je congèle mon beurre, donc si jamais il y a eu ça, ça peut être hyper risqué.
Oh non, je pense pas. Il n'y a pas de risque à congeler le beurre.
Non, mais il n'y a pas de risque à congeler le beurre, sauf si le lait, le lait qui a servi au beurre a été congelé.
Oui, mais tu congèles quelque chose qui a été transformé entre temps, donc c'est pas deux congélations en fait. C'est l'une après l'autre. Oui.
Mais l'extra fin, donc pas de congélation. Donc ça, c'est quand même un signe de qualité. Et aussi un beurre bien jaune, c'est un signe de qualité. Ah oui. Est-ce que vous savez pourquoi le beurre est jaune?
Non. Parce qu'il est un peu vieilli.
Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est lié à la présence de bêta-carotène, qui est un pigment naturel orange, et qui est aussi un atout santé, puisque c'est lui qui permet de synthétiser la vitamine A. Donc, plus le beurre est jaune, plus il est de qualité. Et pourquoi, en fait, dans quel beurre il y a plus de bêta-carotène? Dans les beurres qui ont été faits à partir de lait de vaches qui ont brouté une bonne herbe bien fraîche, puisque le bêta-carotène, on le trouve dans les plantes. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a une AOP d'Isigny en Normandie, une appellation d'origine protégée, là où il y a une bonne herbe fraîche bien arrosée qui pousse pour faire un beurre de qualité.
Donc si je dois résumer, le meilleur beurre, c'est le beurre salé avec des petits cristaux de baratte et extra fin.
Oui, alors après beurre salé, c'est une question
c'est
de goût.
Qui
hein, je
crois
que mais non, mais alors, ici il y a débat.
Le doux, c'est ça peut être bon aussi. Hein.
Non, ne fais pas la promotion du beurre doux sur ce plateau, c'est pas possible. Ah non,
le sel n'est là que pour conserver le beurre doux. Le beurre doux, c'est le beurre de qualité.
Je me refuse à faire la promotion du beurre doux.
Oui.
Non.
Mais c'est parce que tu fais pas d'hypertension, parce que quand tu fais d'hypertension, t'es obligé de manger du beurre doux.
Mais t'as qu'à faire du sport, ça, tu pourras manger du beurre salé.
Bon, en tout cas, la portion quotidienne à consommer, c'est 10 à 15 grammes. C'est l'équivalent d'une petite portion individuelle, comme on en trouve dans les hôtels.
C'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Mais ça se voit. Bah oui. Moi, en revanche, non, tu vois.
Si tu veux, j'ai du 20% de matière grasse.
Ouais, il y a du beurre allégé, si tu veux. Merci beaucoup, Charlotte Mériton, à RMC Conso, tous les jours, 14h30, dans Estelle Midi. Vous pouvez retrouver cette chronique de Charlotte, bien sûr. En podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement. On fait quoi demain, Charlotte?
Demain, on parlera d'applications qui vous permettent de gagner de l'argent en ne faisant quasiment rien.
Ah mais j'adore. Et beaucoup d'argent.
Ça prend un peu de temps à se cumuler quand même.
C'est moins bien que les 20 000 euros de la roue RMC, mais enfin, c'est déjà pas mal.
Et puis il y a peut-être des inconvénients, on en parlera.
Ah, merci beaucoup, Charlotte. On a hâte d'être à demain.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Bonjour, c'est Barbara Lefèvre. Je vous attends tout à l'heure pour débattre au 32-16 dans les GG sur RMC.
Barbara, tu seras avec l'éducateur de Saint-Saint-Denis, Étienne Liebig, et l'ancien policier du RAID, Bruno Pomard.
RMC Les Grandes Gueules, tous les jours, 9h midi.
Du 10 au 16 juin, c'est le Betclic Bordeaux Premier Padel avec RMC. Les meilleurs joueurs et joueuses de padel au monde seront à Bordeaux pour disputer un des tournois les plus prestigieux de l'année. Place disponible à partir de 9€ sur arkeaarena.com. Le Betclic Bordeaux Premier Padel, c'est du 10 au 16 juin à l'Arkea Arena avec RMC.
RMC, Rotten sans flamme.
Salut, c'est Jérôme Rotten. Cette semaine, dans Rotten sans flamme, on fait le grand jugement de la saison du Paris Saint-Germain. Et croyez-moi, ils vont tous y passer. Ne ratez surtout pas ça, ce sera tous les soirs à 18h30 sur RMC. Et ce soir, on fait le procès de Gigio Donnarumma.
RMC, de nouveau récompensé.
RMC est fier de remporter deux distinctions au Grand Prix Stratégie de l'Innovation Média 2024.
Meilleure initiative en radio pour l'After Foot avec l'After Ouvre les Horizons et meilleure initiative sur un média digital pour les radios digitales événementielles d'RMC.
Bravo à toutes les équipes et merci pour votre fidélité. RMC, bien plus qu'une radio.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio. Avec Éric Dimeco, l'ancien footballeur.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et prends-en de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Avec Rémi Barré, Thierry Moreau, Mathilde Caillard et Fred Hermel. Et on va tout de suite s'intéresser à l'insurrection du jour, Rémi.
Oui, situation insurrectionnelle en Nouvelle-Calédonie où Emmanuel Macron vient de décréter l'état d'urgence. Trois personnes sont mortes la nuit dernière. Plusieurs centaines d'autres ont été blessées. Ça, c'est le bilan depuis le début des violences suscitées par une réforme votée par l'Assemblée nationale mais rejetée par les indépendantistes.
Ils sont minoritaires.
Exactement. On a également appris à la mi-journée qu'un gendarme avait été touché par balle à la tête. Apparemment, en tout cas, son pronostic vital est engagé.
Qu'est-ce qu'on peut faire, Thierry Moreau, en Nouvelle-Calédonie, à part envoyer l'armée, mais...
Bah, c'est un problème très compliqué parce qu'on arrive aujourd'hui à un niveau de tension qui est dû en fait au détricotage de tout ce qu'on a fait depuis 88. Il faut quand même rappeler qu'en 88, Michel Rocard avait réussi déjà à la suite d'une situation très insurrectionnelle à mettre tout le monde autour de la table à faire des accords qui avaient été revus en 98. L'idée, c'était de créer un corps électoral territorial provincial restreint. L'idée avait été acceptée par toutes les parties, renégociée en 2007, inscrit dans la loi, pardon, par Jacques Chirac en 2007, dans la Constitution. Et en 2021, renégociation possible. Alors là, tout le monde est d'accord pour renégocier. Et puis l'État essaie, l'exécutif essaie de passer en force. Et c'est là que c'est, à partir de ce moment-là, que ça bloque. Et je pense qu'il faut revenir à une idée de remettre tout le monde autour de la table et de renégocier. Il faut trouver quelqu'un qui soit spécialiste de la question. Il y a des gens comme ça. Lionel Jospin, Gérard Larcher connaissent extrêmement bien ce genre de questions. Mais il faut absolument renégocier. Et évidemment, remettre l'ordre. Parce que ça, c'est fondamental. Parce qu'on ne peut pas être dans une situation insurrectionnelle.
Mais encore une fois,
cette situation est l'aboutissement d'un dégénère. Du fait qu'on a fait dégénérer quelque chose en détricotant l'esprit de 88 qui avait été initié par Michel Rocard.
Il faut renégocier pour vous, Fred Hermel.
Oui, alors il faut voir, c'est très bien l'esprit de 88, le détricotage, c'est simplement permettre, par exemple, je vous rappelle que c'est la France, la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire que vous êtes français, vous allez dans un territoire français, la Nouvelle-Calédonie, vous n'avez pas le droit de voter pendant 10 ans. Enfin, c'est surréaliste.
Bah, c'est ça... régime autonome. Hein.
Oui, c'est ça.
C'est l'autonomie qui a été accordée.
Un Calédonien qui s'installe en France, il est français, il vote tout de suite. Donc voilà, simplement, voilà ce qui est. C'est-à-dire que c'est une hérésie, tout simplement. Donc il est normal qu'il y a des gens qui sont nés en Nouvelle-Calédonie qui ne peuvent pas voter.
Non, mais, c'est... mais ça ne va pas.
Mais non, mais ça... excusez-moi, enfin, on peut. Tu sais, la République est une et indivisible. Hein.
Mais alors là, justement.
Et je rappelle qu'il y a eu trois référendums.
Frédéric, justement, tu fais exactement ce que dit Thierry Moreau. C'est-à-dire que tu es en train de détricoter les accords qui ont été conclus en
88. Accords qui n'étaient pas bons.
Avec toutes les parties.
Oui, avec toutes les parties.
Y compris les caldoches.
Et il y a eu trois référendums où les Calédoniens ont choisi de rester français.
Dont le dernier était pendant le Covid. Hein.
Non, le dernier est à la fin du Covid, où il n'y avait pas trop de cas de Covid en Nouvelle-Calédonie parce que les gens ne pouvaient pas entrer, mais surtout que les indépendantistes n'ont pas voulu participer parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre.
Oui, enfin, ils demandaient aussi à pouvoir avoir le temps d'enterrer leurs morts et donc de, c'était... Enfin, voilà, il y a les deux explications qui sont données.
Ça veut dire qu'il faudrait faire un quatrième référendum.
Oui.
Non, je ne sais pas, mais en tout cas, remettre tout le monde autour de la table de négociation, oui, c'est possible.
Bah, c'est même nécessaire.
Négociation.
C'est nécessaire, là, sinon ça ne va pas se calmer, quoi.
Pardon ?
C'est nécessaire, sinon ça ne va pas se calmer. Enfin, il faut renouer le dialogue, là. C'est, pas...
c'est un territoire très riche. Il y a des minerais très précieux là-bas aussi.
Ouais. Mais c'est vrai que la situation, elle est extrêmement, extrêmement tendue. Et effectivement, on l'a entendu dans le flash aussi, il y a énormément d'armes en Nouvelle-Calédonie, ce qui évidemment n'améliore pas la situation. Tiens, on va passer à un truc qui va bien t'énerver, Fred. L'emploi du temps du jour.
Dans une note interne diffusée dans l'entreprise, la direction de la RATP pointe du doigt l'augmentation du nombre de salariés en situation de double activité. Concrètement, les agents visés sont ceux qui, en plus de leur activité de conducteur de bus ou de train RATP, exercent en qualité de chauffeur VTC en parallèle. Que ce soit avant ou après le service, pendant un jour de repos ou pire encore, durant un arrêt maladie. Certains profitent, selon la direction, de leur expérience qui leur permet de ne pas avoir à suivre de formation particulière ni même de passer un examen pour être chauffeur VTC.
Ça vous choque, Fred ? Alors évidemment, quand c'est pendant un arrêt maladie, c'est choquant, mais bon, quand c'est sur tes jours de congé ou en plus pour arrondir les fins de mois... Bon.
Alors, je vais vous dire, dans l'esprit, ça ne me choque pas. Les gens font ce qu'ils veulent de leur travail. De leur temps de repos. Je veux dire, moi qui étais pigiste toute ma vie, j'en ai fait des petits boulots, des boulots en plus de mon boulot, etc. Donc ça, je ne vais pas juger. C'est simplement la caractéristique du chauffeur, en fait. C'est-à-dire que si on estime qu'un chauffeur de bus, pour des raisons de sécurité, doit rouler par jour tant d'heures, qu'à côté, le mec, avant de prendre son service, il fait 3 heures et il en fait 3 heures après son service. Là, ça me pose un problème d'un point de vue de sécurité.
D'accord.
Mais pourquoi il le fait ?
Chacun, il a le droit de faire ce qu'il veut. Le problème,
c'est. S'il part au week-end ou s'il a 2 heures pour aller chez lui en transport, tu ne le sais pas, pareil.
Non, mais enfin, excuse-moi, c'est pas exactement pareil quand tu. Je veux dire, là, quand tu transportes des gens, il devient un danger. Pour les,
c'est compliqué aussi.
Mais au-delà de ça,
ça veut dire qu'ils ne sont pas assez payés. On peut aussi
dire oui, c'est ça la question.
Mais en quoi ça me gêne ? Moi, la première chose qui me gêne,
c'est la sécurité.
C'est la sécurité parce qu'il y a un taux horaire maximum pour un chauffeur de bus qui n'est pas respecté s'il fait un côté du VTC.
C'est parce qu'ils ne sont pas assez payés, mais aussi parce qu'ils ont du temps. Parce que.
Mais moi, la première chose, c'est pas cette arnaque-là, c'est la sécurité.
Oui, mais comment c'est possible qu'une entreprise de service public, avec des gens qui travaillent dedans à temps plein, se retrouvent à devoir, pendant leur jour de repos, en plus, service public qui en plus permet à 100% des entreprises d'Île-de-France de fonctionner. Enfin, je veux dire, à part ceux qui sont en full télétravail, mais c'est pas non plus la majorité, tout le monde a besoin des transports publics pour acheminer les travailleurs dans leurs entreprises. Comment se fait-il qu'ils se retrouvent à devoir cumuler à côté un job pour pouvoir survivre? On n'a pas envie d'être comme aux États-Unis où on doit avoir 3 jobs pour vivre, en fait. C'est pas possible.
Mais c'est pas pour survivre. Je te rappelle quand même que les organisations syndicales que nous avons régulièrement au téléphone dans cette émission, bus, train, RATP, nous cassent les couilles. Enfin, pardon. Nous ennuient.
Excusez-moi.
Nous ennuient avec le temps de travail en disant il faut respecter les 35 heures, etc. Et donc, on tolérerait le fait qu'à côté, on fasse 40 ou 45 heures. On nous fait suer aussi sur les primes JO en disant vous comprenez, ça va être une pénibilité de travailler parce qu'on va faire des heures sup et on tolérerait qu'il y ait un double emploi, mais c'est pas du tout pour survivre, c'est pour mettre encore
du beurre dans les épinards.
Il
y en a qui font du Airbnb et eux ils font un deuxième boulot.
Quand on a un contrat de 35 heures avec une entreprise de transport des raisons de sécurité, on a un employeur et pas deux, et je pense que c'est illégal.
Très bien, nous on a un contrat avec Vincent Serroussi tous les jours 14h50 et c'est maintenant. Vincent Serroussi n'a pas tout compris.
RMC, Estelle Midi.
Serroussi n'a pas tout compris.
Bonjour Vincent.
Bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour Thierry.
Ça va Thierry ?
Bonjour,
excusez-moi.
Non, mais je vous en prie.
Alors aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi on veut rebaptiser la fête des mères, la fête des gens qu'on aime.
Eh oui, au nom de l'inclusion des genres, une école en Suisse aimerait remplacer la fête des mères par la fête des gens qu'on aime. Et pour la fête des pères, alors on fait comment ? La fête des gens qu'on aime un peu moins, qu'est-ce qu'on va dire ?
Qu'on aime autant,
je sais pas. Écoutez, en tout cas, moi je suis pour cette mesure, parce que la dernière fois que j'ai souhaité bonne fête des pères à mon père, il m'a répondu, qu'est-ce qui te fait croire que je suis un homme ? J'ai dit, bonne fête maman. Alors, il m'a dit, qu'est-ce qui te fait croire que je suis une femme ? Donc là, au moins, voilà, c'est une mesure qui rend plus d'équité.
Vous êtes favorable à cette mesure, Vincent, finalement ?
Oui, il faudrait même adapter toutes les fêtes. Je vois pas pourquoi on s'arrêterait là. La fête des gens qu'on aime pour la fête des mères, et pour les grands-mères, la fête des gens qu'on aime, mais plus pour longtemps, voilà, par exemple. comme ça, on est sûr de que ces personnes. Le poisson d'avril, par exemple, devient le vertébré aquatique d'avril. Comme ça, on peut inclure les crevettes et les raymantas. C'est important, Estelle, vous savez. De toute façon, les choses commencent à bouger déjà. La fête de la musique, par exemple, est devenue la fête de la retraite et du climat. Pas vrai, Mathilde ?
Climat,
Vous avez la référence?
Vous pensez pas quand même que cette mesure va froisser certaines personnes?
Bah écoutez, déjà, c'est une bonne nouvelle pour les Suisses. Parce que quand ton problème, c'est la dénomination de la fête des mères, c'est que t'as pas de problème. Après, ça va créer quand même pas mal de soucis. Si tu remplaces fête des mères par fête des gens qu'on aime, ça veut dire que t'as 18 personnes qui vont recevoir un vieux collier de nouilles et des dessins pourris. Et ça, je pense pas que ça va leur faire plaisir. Parce que oui, la mère française, elle doit être un peu dégoûtée, quoi. Son fils lui fabrique des colliers de nouilles pour la fête des mères, alors que la mère chinoise fabrique un écran plat. Je veux dire, c'est pas les mêmes cadeaux, quoi. Et ça, je comprends les mères. Hein.
Vincent, dans Estelle Midi, on s'est aussi demandé s'il fallait interdire les patinoires.
Oui. Attention, ça, c'est l'instant mytho de Fred.
Moi, je suis très bon en patin à glace. Oh, j'adore le patin à glace.
Tu mens. Il ment.
Tu vas pas nous faire croire qu'à Madrid, tu faisais du patin après un classico, Fred. Faut arrêter les conneries, hein. Rouler des patins à la limite. Et encore, même ça, hein, pas très sûr, hein.
Alors, vous êtes pour ou contre l'interdiction des patinoires?
Mais je voulais écouter votre débat pour me faire un avis sur l'urgence écologique, le gaspillage. La fonte des glaces, et j'ai entendu ça.
On allait draguer la patinoire.
On pourrait encore aujourd'hui, hein, pourquoi pas.
C'est quoi, c'est un date? C'est la première de Mathilde et ça fait des appels de phare à Estelle Denis, draguer à la patinoire, tranquillement. Et on a aussi l'instant mytho d'Estelle.
Oui, et tu te la jouais un peu en faisant tes petits virages en arrière et tout.
Tu mens.
Mais je patinais hyper bien.
Mais oui, bah t'as des photos.
Des photos, tu verras rien.
Oui, bah oui, je verrai rien. Parce
tu vois sur Yabonali? Eh ben, c'était moi. Voilà.
Pardon, Philippe Candeloro.
En tout cas, ça répond pas à la question.
Oui, c'est vrai. Les patinoires, bon, c'est vrai que c'est pas ouf pour l'écologie. Mais après, il y a des patinoires que moi, j'aimerais bien garder, notamment celle de l'Hôtel de Ville à Paris, juste pour mettre Hidalgo dessus et avoir se casser la gueule. Voilà, c'est un petit plaisir. Après, Hidalgo.
Vous êtes mesquin,
c'est ça. Je suis pas mesquin. Hidalgo a déjà tout préparé pour rendre la patinoire de l'Hôtel de Ville plus écologique. Elle a prévu de construire une piste cyclable dessus. Voilà. Bravo.
Merci beaucoup, Vincent Cirouci, tous les jours dans Estelle Midi. 14h50 et en podcast rmc.fr, l'appli RMC et toutes vos applis de téléchargement.
RMC, retrouvez Estelle Midi en podcast sur l'appli RMC et sur rmc.fr.
Retour d'Estelle Midi tout à l'heure en direct à midi sur RMC et en attendant, Charles Matin avec vous, Charles Magnin. Bonjour Charles.
Salut Estelle, oui, on se retrouve tout à l'heure à midi évidemment, mais tout de suite c'est parti en direct de bon matin, 4h56, tous ensemble pour Charles Matin. Good morning. Good morning.
Good morning. RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Bon réveil à tous, bienvenue sur RMC. Bon courage à ceux qui sont déjà au boulot. Oui, les courageux du matin, ceux qui sont déjà sur la route. C'est peut-être l'heure du premier café. Je sais que c'est déjà l'heure, tiens, d'être du côté de la boulangerie pour Jessie, notre boulanger de Reims qui nous a déjà écrit. Vous êtes déjà sur Direct Studio, hein, c'est incroyable.
Ah, il y a du monde, je vois Richard, je vois Mathieu. Salut, moi c'est Géraldine.
Oui, bonjour Géraldine d'abord. Oui,
je suis arrivée,
j'ai mis les pieds dans le plat. Oui, mais je vais quand même préciser que voilà, tout le monde est là, vous l'entendez, Géraldine de Maury. Déjà dans les starting blocks, oui, il y a Richard, il y a du monde déjà avant même qu'on prenne l'antenne, et ça c'est magnifique, vous nous attendez, c'est le rendez-vous tous les matins.
Plaisir.
On est tous ensemble, évidemment, c'est parti pour une nouvelle matinée d'infos sur RMC. Alors l'actu est lourde, elle est chargée, vous le savez, ces derniers jours. Bon, j'aimerais quand même commencer par une bonne nouvelle. Bon, la bonne nouvelle que j'ai repérée ce matin dans l'actu, bah, c'est la liste. Eh oui, Géraldine.
The List.
Oui, la liste de Dédé. On l'attend, la liste de Didier Deschamps aujourd'hui pour l'Euro. 26 joueurs qui devraient être annoncés ce soir par le sélectionneur. Non mais surtout, ça donne le petit parfum de ça y est, l'Euro approche là. C'est dans moins d'un mois, on en parle peu. Mais oui, dans un mois, on sera sur nos canapés en train de crier « Allez les Bleus !» dans les fan zones. Évidemment, on écoutera RMC, vous aurez toutes les infos. On va vivre cet Euro tous ensemble. On en parle un peu moins parce qu'il y a les JO aussi qui approchent. Hein.
Bah oui.
Derrière, bah oui, c'est un peu plus de préparation. Mais il y a cet Euro en Allemagne, les Bleus favoris. Et ça commence en fait ce soir. Quelque part, on aura la liste, les contours de cette équipe qui va nous faire vibrer.
Bah dites-nous, tiens, qui est-ce que vous aimeriez voir, hein?
Ah, on aura les dernières infos d'ailleurs tout à l'heure dans la Story Sport avec Alex Biggerstaff à 5h40. Ça fait partie de tous nos rendez-vous ce matin sur RMC. Toute l'info. Évidemment, et l'info à la une ce matin, au cœur de l'actualité, c'est la Nouvelle-Calédonie. Hein, vous le savez, l'état d'urgence est entré en vigueur hier soir. Ça fait maintenant une dizaine d'heures que la Nouvelle-Calédonie est en état d'urgence. Gabriel Attal a annoncé hier le déploiement de militaires pour sécuriser les ports et l'aéroport du côté de Nouméa.
Alors, la nuit dernière était un petit peu plus calme que les précédentes. Plusieurs dizaines de personnes ont été interpellées hier. Le bilan de ces émeutes est d'ores et déjà très lourd. 4 personnes sont décédées, dont un jeune gendarme de 22 ans.
Oui, des morts, des quartiers d'habitation pris pour
pour cible, des commerces pillés, incendiés. Cette violence, évidemment, si vous nous écoutez depuis la Nouvelle-Calédonie, vous avez la priorité ce matin au 32-16. Il y a surtout Direct Studio pour nous envoyer un petit message. Vous connaissez le principe, vous allez sur l'appli RMC, onglet Direct Studio, on lit vos messages en direct, on peut vous rappeler évidemment, vous nous laissez votre numéro et vous pourrez témoigner en direct. N'hésitez pas à nous appeler au 32-16 si vous avez des proches qui vivent en Nouvelle-Calédonie, si vous avez de leurs nouvelles depuis Nouméa, depuis la Nouvelle-Calédonie, n'hésitez pas, même si vous avez connu la Nouvelle-Calédonie, vous y avez peut-être vécu pendant quelques années, n'hésitez pas à venir nous le raconter ce matin. Vous suivez la situation d'heure en heure, vous aurez les toutes dernières infos ce matin évidemment en écoutant RMC.
Et puis comme tous les matins, comme tous les jours, on va retrouver la bande de Charles Matin à 5h40. Il y aura Alex Biggerstaff, il y aura Mélinda d'Avant-Soulas. Et puis tiens, moi je vais vous aider à ne pas payer trop cher pour votre plein d'essence. Ce sera ma solution conso dans 30 minutes.
Ah, alors là, bon, elle m'intéresse tous les jours, ta solution conso, mais ce matin j'en ai particulièrement besoin. Voilà, payer un peu moins cher son plein, faudra être bien là juste avant 5h30 pour la solution conso. Mais tout de suite, Géraldine, on va regarder la météo du jour et c'est toujours pluie et orage. Hein.
Toujours, oui. Alors ce matin c'est un peu plus calme quand même, on a surtout de la pluie au nord de la Seine. Mais en journée, à nouveau, on va avoir ces averses orageuses qui vont se activé sur la plupart des régions. Ce sera à peine plus calme sur la Corse. L'Île-de-France également sera un petit peu entre deux, donc ce sera un petit peu plus calme. Les averses arriveront un petit peu comme hier en soirée. Les températures, eh bien, il ne fait pas très chaud ce matin. Cet après-midi comme hier, donc on sera souvent entre 17 et 21.